cheval, Léon Tolstoï. Chapitre 1. Le ciel s'élevait de plus en plus haut, tandis que l'aurore s'étendait. L'argent mat de la rosée blanchissait, le croissant de lune devenait pâle et sans vie. La forêt se faisait plus sonore. Les hommes commençaient à s'éveiller et, dans l'enclos des chevaux, on entendait les reniflements, le bruit de la paille froissée et même les hennissements aigus, impatients, des bêtes excitées. « Oh, patience, tu as faim ?» dit le vieux gardien du troupeau en ouvrant précipitamment la porte grinçante. « Où vas-tu donc ? » cria-t-il en menaçant une jument qui s'était glissée vers la sortie. Le gardien Nestère était vêtu d'un casaquin serré à la taille par une courroie garnie de métal. Il avait jeté son fouet sur son épaule et attaché à sa ceinture un petit sac contenant du pain. Il tenait des deux mains une selle et un bridon. Nullement effrayés ou même offensés par le ton de leur gardien, les chevaux prirent un air indifférent et s'éloignèrent sans hâte de la porte. Seule une vieille jument baie à la crinière hirsute coucha une oreille et tourna brusquement le dos à Nestère, tandis qu'une pouliche qui se tenait derrière et que tout cela ne concernait en aucune façon, jugeait bon de pousser un cri aigu et d'envoyer une ruade à son voisin. « Oh !» cria le gardien encore plus fort, d'une voix encore plus menaçante, et il se dirigea vers un coin de la cour. De tous les chevaux qui se trouvaient là réunis, ils étaient une centaine environ. Celui qui montrait le moins d'impatience était un ongre pie qui seul, sous un auvent, les yeux mi-clos, était en train de licher la porte de chêne de la grange. On aurait pu dire quel genre de plaisir trouvait à cette occupation le ongre pie, mais il avait, en s'y livrant, une expression grave et rêveuse. « Polisson !» fit d'un ton moqueur le gardien en s'adressant au hongre. Et il déposa sur un tas de fumier la selle et la couverture graisseuse. Le cheval cessa de lécher le bois et, immobile, regarda longuement Nestère. Il ne rit pas, ne se fâcha pas, mais ayant gonflé son ventre, il poussa un profond soupir et se détourna. Le gardien passa le bras par-dessus le cou de la bête et lui mit le bridon. « Qu'as-tu à soupirer ?» demanda Nestère. Le hongre agita la queue comme s'il voulait dire « Pour rien, Nestère. » Nestère étendit sur son dos la couverture et se mit en devoir d'attacher la selle, tandis que le hongre couchait les oreilles. Pour manifester son mécontentement, sans doute. Mais il ne réussit qu'à se faire traiter de « saleté ». Puis Nestère serra les sangles. Le hongre aussitôt enfla le ventre. Mais on lui introduisit un doigt dans la bouche tandis qu'un coup de genou dans le ventre l'obligeait à expirer l'air. Malgré cela, quand on lui attacha le surfait, le hongre coucha de nouveau les oreilles et jeta même un coup d'œil en arrière. Bien qu'il sût que tout cela ne servait à rien, il considérait néanmoins indispensable d'exprimer combien ces choses lui étaient désagréables. Lorsqu'il fut scellé, il recula sa patte droite ankylosée et se mit à mâcher le mort. En cela, il obéissait aussi à quelques considérations particulières, puisqu'il devait bien savoir qu'un mort ne peut avoir aucun goût. Nestère posa le pied dans l'étrier et sauta sur l'ongre. Il déploya son fouet, dégagea son casaquin dessous ses genoux et s'assit de cette façon particulière qui est propre au cocher, au chasseur, au gardien de troupeau, puis il tira sur la bride. Le hongre leva la tête, indiquant par là qu'il était prêt à aller où l'on voudrait. Cependant, il ne bougea pas. Il savait bien qu'avant de partir, il y aurait encore beaucoup de cris et d'ordres à donner à l'autre gardien, Vasca, et aux autres chevaux. Et en effet, Nestère se mit à crier. « Vasca, Vasca, as-tu laissé sortir les juments pleines ? « Où es-tu, brigand ? Dors-tu ? Ouvre donc ! Fais partir les juments en avant !» etc. la porte grinça. Renfrogné et ensommeillé, tenant son cheval par la bride, Vasca se plaça près de la sortie et fit passer les chevaux. Ceux-ci s'avançaient un à un, marchant avec précaution sur la paille qu'ils flairaient en passant. Les jeunes d'abord, Poulain et Pouliche, puis les lourdes juments pleines qui engageaient prudemment dans la porte leur ventre énorme. Les pouliches parfois se bousculaient, se présentant à deux ou à trois de front. Elles posaient leur tête sur le dos de leur voisine et dansaient sur place, ce qui leur valait les injures des gardiens. Les poulains se jetaient dans les jambes des juments et poussaient des hennissements sonores en réponse aux appels de leur mère. Dès qu'elle fut dehors, une pouliche espiègle baissa la tête et, projetant sa croupe en l'air, poussa un cri aigu. Elle n'osa cependant pas dévancer la vieille jument grise Jouldiba, qui, d'un pas lent et balançant son ventre, marchait posément comme d'habitude en tête de tout le troupeau. En quelques instants, la cour si animée se trouva morne et déserte. Les poteaux se dressaient tristement sous l'auvent vide et l'on ne voyait plus qu'une couche de paille piétinée et saillie. Bien qu'il eût de ce tableau d'abandon une longue habitude, le hongre Pie en fut sans doute affecté. Il abaissa lentement la tête, puis la redressa comme s'il saluait. Ayant poussé ensuite un soupir aussi profond que le lui permettaient les sangles qui le serraient, il suivit le troupeau, clopin clopant, portant Nestère sur son dos osseux. « Je le sais maintenant, » songeait le hongre. « Quand nous serons sur la route, il se mettra à battre son briquet et il allumera sa petite pipe garnie de cuivre et munie d'une chaînette. J'en suis heureux, car j'aime cette odeur tôt le matin dans la rosée et elle me rappelle beaucoup de choses agréables. Dommage seulement que lorsque le vieux a sa pipe entre les dents, il fait le fier, s'imagine je ne sais quoi et s'assit de côté, tout à fait de côté. Et moi, j'ai mal à cet endroit. » Mais que Dieu le bénisse après tout. Ce n'est pas la première fois que je souffre pour le plaisir d'autrui. Je commence même à y trouver une certaine satisfaction chevaline. Qu'il fanfaronne donc, le pauvret. Ça ne lui est loisible que lorsqu'il est seul, tant que personne ne le voit. Qu'il s'installe de son côté, à son aise. Et tout en raisonnant ainsi, le hongre continuait de marcher au milieu de la route, posant avec précaution ses pattes torses. Chapitre 2. Ayant conduit les chevaux près de la rivière où ils devaient paître, Nestère mit pied à terre et décela sa monture. Le troupeau se dispersa lentement à travers la prairie humide de rosée, au-dessus de laquelle flottait un léger brouillard qui s'élevait des champs et de la rivière. Ayant enlevé le bridon, Nestère gratta le hongre sous le cou, et l'animal manifesta son contentement et sa reconnaissance en fermant les yeux. « Il aime ça, le vieux chien !» fit Nestère. Pourtant, le hongre n'aimait nullement ce genre de caresse, mais, poli, il faisait semblant d'être très satisfait. Il agita même la tête en signe d'acquiescement. Mais soudain, d'une façon tout à fait inattendue et sans aucune raison, Nestère repoussa la tête de l'animal, brandit le bridon et frappa le hongre. La boucle atteignit la jambe malade de la bête. Sans doute Nestère pensait-il qu'une trop grande familiarité risquait de donner au hongre une fausse idée de son importance. Ensuite, sans mot dire, Nestère alla s'asseoir sur un tertre, contre une souche près de laquelle il s'installait d'ordinaire. Bien que le coup eût peiné le hongre, il n'en fit rien voir. Il se dirigea vers la rivière en agitant lentement sa maigre queue et en arrachant pour se distraire quelques brins d'herbe. Il ne prêtait pas la moindre attention aux ébats des poulains que le matin rendait joyeux. Sachant que ce qu'il y avait de mieux pour la santé, surtout à son âge, c'était de boire à jeun pour ne manger qu'ensuite. Il choisit un endroit où la rive descendait en pente douce. Il plongea dans l'eau ses sabots et son museau et se mit à aspirer le liquide à travers ses lèvres déchirées en gonflant ses flancs et en agitant la queue. La pouliche espiègle, qui taquinait toujours le vieillard et lui causait un tas de désagréments, s'approcha de lui comme pour boire elle aussi, mais en réalité uniquement pour troubler l'eau. Cependant, le hongre-pie avait déjà fini de boire. Faisant mine de ne pas comprendre les intentions de la pouliche baie, il retira tranquillement l'un après l'autre ses sabots enlisés, secoua la tête et s'étant éloigné de la jeunesse, se mit à manger. Veillant bien à ne pas piétiner inutilement l'herbe, il mangea sans se redresser pendant 3 heures exactement. Alors, son ventre pendant comme un sac sur ses côtes maigres et abruptes, il se cala sur ses 4 pattes douloureuses de façon à avoir le moins mal possible, surtout à son pied antérieur droit, qui était le plus faible, et il s'endormit. Il existe une vieillesse majestueuse. Il en existe de laide ou de pitoyable. Mais la vieillesse peut être à la fois laide et majestueuse. Celle du hongre-pie appartenait précisément à cette dernière catégorie. Le hongre était de grande taille, il ne mesurait pas moins de 2 archines et 3 verchocs. Son pelage était noir-pie, ou plutôt avait été tel, car à présent les taches noires étaient devenues d'un brun sale. Ces taches étaient au nombre de 3. La première, sur la tête, descendait jusqu'à mi-cou. La longue crinière entremêlée de brindilles était blanche par place et par place brunâtre. Une autre tache s'étendait le long du flanc droit jusqu'à la moitié du ventre. La troisième, sur la croupe, englobait le haut de la queue et des cuisses. Le reste de la queue était blanc et tacheté. Sa grande tête osseuse aux orbites profondes, à la lèvre noire et distendue, depuis longtemps déchiré, pendait lourdement au bout de son long cou maigre que l'on eût dit en bois. La lèvre distendue laissait entrevoir une langue noirâtre entre les restes jaunes et rongés des dents inférieures. Les oreilles, dont l'une était fendue, tombaient de côté et ne remuaient paresseusement de temps à autre que pour chasser les mouches qui s'y collaient. Une touffe, encore longue de crin, pendait derrière l'une des oreilles. Le front dégarni était raviné et rugueux. Sur le cou et la tête, de grosses veines formaient des nœuds qui frémissaient à chaque frôlement de mouche. L'expression de la face était grave, méditative et douloureuse. Les pattes de devant étaient arquées et des excroissances surmontaient les sabots. Celles de ces pattes, qui étaient à moitié couvertes par une des taches autrefois noires, portaient au genou une bosse de la grosseur du poing. Les pattes de derrière paraissaient en meilleur état, mais elles étaient pelées aux cuisses déjà depuis longtemps, semblait-il, et le poil ne repoussait plus. Les 4 pattes paraissaient démesurément longues à cause sans doute de la maigreur du corps. Bien que les côtes fussent abruptes, la peau les épousait si étroitement qu'elle semblait collée aux interstices qui les séparaient. Le dos et le garrot du hongre portaient de nombreuses marques d'anciens coups, dont l'une suppurait encore. Le noir tronçon de queue, où se marquait chaque vertèbre, pointait presque complètement dégarni. Sur la croupe brune, près de la queue, se voyait une plaie grande comme la main, couverte de poils blancs, et qui ressemblait à une morsure. Une autre cicatrice marquait l'omoplate droite. Les jarrets des pattes de derrière ainsi que la queue étaient malpropres à cause des fréquents dérangements d'estomac de l'animal. Le poil sur tout le corps était hérissé bien que court. Et cependant, en dépit de la répugnante vieillesse du hongre, un connaisseur, en le voyant, n'eût certainement pas hésité à reconnaître qu'il avait été autrefois un cheval remarquable. Le connaisseur eût même ajouté qu'une seule race de chevaux en Russie pouvait donner une aussi large charpente, d'aussi énormes épaules, de tels sabots, des pattes d'une aussi fine ossature, un cou si bien planté, une tête surtout, un œil noir et limpide, et ses nœuds de veine, signe infaillible de race au cou et à la tête, et cette finesse de la peau et du poil. Il y avait effectivement quelque chose de majestueux dans l'aspect du Hongre Pie, dans cette combinaison étrange des signes repoussants de la décrépitude que soulignait le pelage tacheté, avec l'attitude calme et assurée d'un animal conscient de sa force et de sa beauté. Pareil à une ruine vivante, il se tenait à l'écart dans la prairie couverte de rosée, tandis que, non loin de lui, on entendait les piétinements, les reniflements, les hennissements stridents du troupeau dispersé. Chapitre 3. Le soleil avait déjà dépassé le faîte de la forêt et brillait de tout son éclat sur l'herbe et sur la rivière. La rosée séchait et se condensait en gouttelettes. Les dernières vapeurs du matin se dissipaient comme une fumée. Les nuages commençaient à moutonner, mais le vent ne se levait pas encore. Au-delà de la rivière, les seigles verts se dressaient en brosse et l'air était imprégné de l'odeur des herbes fraîches et des fleurs. De la forêt parvenait la voix, quelque peu enrouée d'un coucou, et Nestère, étalé sur le dos, comptait combien d'années il lui restait encore à vivre. Des alouettes s'élevaient des champs de blé et des prairies. Un lièvre attardé, surpris par le troupeau, s'échappa, s'assit près d'un buisson et se mit à écouter. Vasca s'était assoupi la tête dans l'herbe. Le contournant, les pouliches s'égayaient vers la rivière, reniflant légèrement et marquant la rosée de traces claires. Les vieux chevaux choisissaient les endroits où nul ne pouvait les gêner. La plupart, d'ailleurs, avaient cessé de manger, se contentaient de déguster parfois quelques brins d'herbe particulièrement succulents. Tout le troupeau avançait peu à peu dans la même direction. La vieille Juldiba, précédant toujours les autres d'un pas mesuré, indiquait que l'on pouvait aller plus loin encore. Mouche, la jeune cavale noire qui venait de mettre bas pour la première fois, ne cessait de hennir en levant la queue et de souffler sur son poulain gris mauve. La jeune satinée, au pelage lisse et brillant, baissait la tête de sorte que sa frange soyeuse lui couvrait le front et les yeux, et jouait avec l'herbe. Elle arrachait une touffe, la jetait, frappait le sol de son sabot humide de rosée. L'un des poulains avait imaginé un nouveau jeu. Sa petite queue frisée en panache, il galopait sans arrêt autour de sa mère. Celle-ci, déjà habituée probablement au caractère de son fils, broutait tranquillement et se contentait, de temps à autre, de le considérer obliquement de son grand œil noir. Un petit poulain à la mamelle, noir, avec une grosse tête sur laquelle sa frange se hérissait d'étonnement entre ses oreilles dressées, et dont la queue gardait encore la position qu'elle avait eue dans le ventre de la mère, regardait attentivement son camarade qui ne cessait de galoper, et l'on ne pouvait savoir s'il enviait ou admirait cette façon d'agir. Certains tétaient en poussant leur mère avec leur nez, d'autres, sans que l'on sût pourquoi et malgré les appels désespérés de leur mère, se mettaient à courir d'un petit trot maladroit dans la direction exactement opposée, comme s'il cherchait quelque chose, puis s'arrêtait brusquement, sans raison aucune, et lançait des hennissements aigus. D'autres encore restaient couchés sur le côté. Il y en avait qui apprenaient à brouter. Il y en avait qui se grattaient l'oreille avec leurs pattes de derrière. Deux juments pleines se tenaient à part. Avançant avec lenteur, elles continuaient de manger. On voyait que les autres respectaient leur état et aucun des jeunes n'osait s'aventurer dans leur parage et les gêner. Et si quelques espiègles s'approchaient d'elles, il leur suffisait d'un mouvement des oreilles ou de la queue pour leur faire comprendre toute l'inconvenance de sa conduite. Les poulains à la crinière taillée et les pouliches d'un an copiaient déjà les allures des grands chevaux pondérés. On les voyait rarement sauter et se joindre aux bandes joyeuses. Ils broutaient posément en courbant leurs minces coups tendus et agitaient leurs petits balais comme si c'était de vraies queues. Tout comme les adultes, ils se couchaient, se roulaient par terre ou se grattaient mutuellement. Les bandes les plus gaies étaient composées des juments de 2 et de 3 ans qui n'avaient pas encore porté. Elles se tenaient ensemble, formant bande à part à la façon des jeunes filles. Et ce n'était parmi elles que piétinement, hennissement, reniflement. Elles se réunissaient, posaient leurs têtes sur l'épaule l'une de l'autre, se flairaient mutuellement, puis soudain, elles bondissaient et parfois l'une d'elles, dressant la queue, passait au petit trot devant ses compagnes, fière et coquette. Parmi toute cette jeunesse, la plus belle et la plus fantasque était la pouliche Baie. Entreprenait-elle quelque chose, les autres l'imitaient aussitôt. Où elle allait, toute la bande la suivait. Ce matin-là, l'espiègle était particulièrement folâtre. Elle se sentait de bonne humeur, comme il arrive aux hommes, sans savoir pourquoi. Après avoir essayé de taquiner le vieux hongre à l'abreuvoir, elle s'était mise à courir le long de l'eau, faisant semblant d'avoir peur, puis, ayant soufflé bruyamment, elle était partie au triple galop à travers les prairies. De sorte que Vaska avait dû courir pour la rattraper, ainsi que ses compagnes qui s'étaient précipitées sur ses traces. Ayant un peu mangé, elle s'était roulée ensuite dans l'herbe, puis avait agacé les vieilles en se plaçant devant elle. Après quoi, elle s'était amusée à poursuivre un petit poulain, faisant mine de vouloir le mordre. La mère, ayant pris peur, s'était arrêtée de brouter. Le poulain poussait des cris de détresse, mais l'espiègle ne le toucha même pas. Elle se contenta de l'effrayer et de donner un spectacle à ses compagnes qui suivaient avec sympathie ses exploits. Après cela, la jument entreprit de tourner la tête à un petit cheval gris qui, loin derrière la rivière, traînait une charrue. Elle s'arrêta, leva fièrement la tête un peu de côté, se secoua et poussa un long et tendre hennissement. Il y avait de la gaieté dans cet appel, mais aussi de la douceur et une certaine tristesse. Il exprimait le désir, une promesse d'amour et la nostalgie de l'amour. Là-bas, dans les roseaux, le mâle de la caille, courant çà et là, appelle passionnément sa compagne. Le coucou et la caille chantent l'amour et les fleurs confient leur pollen odorant au vent qui le transporte de l'une à l'autre. « Moi aussi je suis jeune, belle et forte », disait le hennissement de l'espiègle. Or, il ne m'a pas été donné d'éprouver jusqu'ici la douceur de ce sentiment. Non seulement je ne le connais pas, mais aucun amant ne m'a jamais encore regardé. Et ce hennissement qui signifiait tant de choses résonna, frais et mélancolique, à travers les champs, et parvint jusqu'au petit cheval gris. Il dressa les oreilles et s'arrêta. Le paysan qui le montait le frappa de sa chaussure de tille. Mais le petit cheval gris, charmé par le son argenté de l'appel lointain, hennit à son tour. Le paysan, fâché, tira la bride et frappa si fort le ventre de l'animal que celui-ci ne put achever son hennissement et reprit sa marche. Mais la douceur et la tristesse envahirent le petit cheval, et longtemps encore ces hennissements entrecoupés et la voix furieuse du paysan parvenaient au troupeau des champs lointains. Si le petit cheval avait oublié son devoir rien qu'à l'appel de la jument, que lui serait-il advenu s'il avait pu voir la jolie espiègle quand elle appelait les oreilles dressées, les naseaux palpitants, aspirant longuement l'air, frémissant de tout son jeune corps tendu vers un but mystérieux. Mais la pouliche ne s'appesantit pas longtemps sur ses impressions. Quand la voix du petit cheval gris se fut tue, elle lança encore un hennissement moqueur, baissa la tête et se mit à creuser la terre de son sabot. Après quoi, elle s'en fut réveillée, taquiner le vieux hongre pie. Le hongre était l'éternel souffre-douleur de cette gaie jeunesse. Celle-ci lui faisait plus de mal que les hommes. Lui, cependant, ne faisait de mal à personne. Les hommes avaient besoin du hongre, mais pourquoi les jeunes chevaux le tourmentaient-ils ?